Musique d'orgue à partir de ce samedi dans la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon. Frédéric Bayer, vous dites festival international parce que vous avez décidé de vous réunir autour d'un instrument restauré.
Oui, tout à fait. On a la chance maintenant depuis quelques mois d'avoir vu revenir notre grand orgue monumental de la cathédrale après 2 ans de restauration par la manufacture de Michel Jurine. Qui est basé à Rontalon, près de Lyon. Et c'est un chantier exceptionnel, hein, qui a été entièrement financé par les services de la DRAC et de l'État, qui ont vu revenir cet instrument, maintenant en parfait état, avec de belles améliorations. Donc on va fêter cela durant la totalité en fait, du mois d'avril, jusqu'au 4 et 5 mai, par plusieurs concerts et des manifestations culturelles.
Revenons un tout petit peu sur l'histoire de l'orgue. Alors, cette histoire est longue, elle commence au XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'instrument construit par M. Carl Joseph Ripp et appelé en 1745, je crois.
Oui, c'est ça, 1745. Eh bien, de l'instrument de Carl Joseph Ripp, il reste encore 60% du matériel d'origine, qui a été certes pas mal de fois remanié ou reclassé au cours des 2 siècles de vie de cet instrument. Mais la dernière restauration a permis de vraiment bien retrouver ce qu'étaient les qualités sonores et le matériel justement sonore d'origine.
C'est une grosse machine, si je peux me permettre.
Oui, tout à fait. Bon, il faut dire que l'instrument de 1745 était déjà assez monumental. Il y avait plus de 50 jeux pour une petite cathédrale. Ça en faisait d'ailleurs l'orgue de province le plus grand de son époque. Alors évidemment, il a bénéficié et subi de pas mal de transformations autour de son histoire, puisque de 1745, 50 ans après, il a déjà été modifié, voire amélioré, et tout au long du 19e siècle, il y a eu plusieurs améliorations, modernisations, par en l'occurrence la manufacture Calinet, par Ducroquet, par Joseph Merclin, par exemple, qui était un concurrent direct d'Aristide Cavaillé-Cole à l'époque, donc il a été romantisé. Et puis, la dernière tranche monumentale qu'il y a eu, c'était dans les années 1950, en 1955 très exactement, une reconstruction dans l'esprit néoclassique par la manufacture Röttinger de Strasbourg. Et ça en a fait, à l'époque, un instrument néoclassique, c'est-à-dire un instrument de synthèse qui permettait de jouer à peu près tous les répertoires. La reconstruction de 1996 par la manufacture Schmidt, elle a visé à revenir à l'esprit du XVIIIe siècle, c'est-à-dire reconstituer dans sa structure l'orgue d'origine, mais en conservant les apports plus modernes. Ce qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, alors après les toutes dernières améliorations de la restauration de 2023, nous sommes en présence d'un grand orgue que l'on pourrait qualifier de néoclassique, hein, un instrument de synthèse qui comprend 73 registres, mais qui, grâce justement à la présence de tout ce matériel sonore historique encore bien conservé, ressemble dans le répertoire adéquat vraiment parfaitement à un instrument du XVIIIe siècle. C'est vraiment au plus proche de l'authentique, on va dire.
Selon que vous puissiez le savoir, vous qui êtes à Dijon depuis assez peu de temps, finalement, à l'échelle de l'histoire de l'orgue, est-ce que les auditeurs qui étaient habitués d'entendre cet instrument-là s'y retrouve aujourd'hui?
Alors, je dirais que la redécouverte sonore de l'instrument de Saint-Bénigne depuis ces dernières années, c'est pour tous ceux qui viennent l'entendre, que ce soit des organistes comme des mélomanes ou bien des fidèles, des paroissiens, c'est un choc. Puisque depuis les 25 dernières années, on était en présence d'un instrument néoclassique, un petit peu avec une sonorité un petit peu germanique, on va dire, qui était très puissant dans les aigus, qui était même quasi tonitruant, mais qui manquait de corps, qui manquait un peu de fondamental. Et la dernière réharmonisation donc par Michel Jurine et ses compagnons a redonné à cet orgue un moelleux, une profondeur qui lui manquait, hein, dont l'instrument souffrait. Et tous ceux qui viennent l'entendre et qui posent les doigts sur les claviers sont, on va dire, presque choqués parce qu'ils ont l'impression d'entendre un tout autre instrument, alors que c'est pourtant le même, hein, c'est la même chose, il y a eu juste deux modifications de jeu, et tous sont unanimes pour dire que sa présence est un des plus beaux instruments de cathédrale de France.
Frédéric Mayer, festival à partir de ce samedi. C'est alors quelqu'un qui connaît bien et qui connaissait même déjà bien l'instrument d'avant les travaux, c'est Yves Cueneau.
Bah, Yves Cueneau et moi, nous sommes donc titulaires de l'orgue. Enfin, Yves, bien sûr, depuis 50 ans, est donc titulaire de l'orgue de la cathédrale. Mais officiellement, une nouvelle équipe avait été constituée en 2018. Donc, nous partageons cette tribune à présent tous les deux. Yves Cueneau, donc, ouvrira le festival 2024 par un concert avec un programme très éclectique et très original qui devrait faire entendre la totalité de l'instrument, en quelque sorte, puisqu'on y entendra du répertoire classique français du XVIIIe siècle, mais également de la musique romantique de Max Reger, des œuvres personnelles d'Yves Cueneau, des compositions récentes, et même une création mondiale de Laurent Coulon, qui est un jeune compositeur à l'heure actuelle. Donc un programme vraiment très éclectique.
Vous poursuivez, alors on ne va pas donner toutes les dates du concert puisque ça va jusqu'au mois de mai avec alors un visiteur parisien, David Cassan.
Qui est organiste à l'Oratoire du Louvre de Paris et qui est professeur au Conservatoire de Nancy. Alors David Cassan, c'est vraiment un musicien qui a une carrière absolument époustouflante de nos jours et il est également extrêmement éclectique et en l'occurrence c'est aussi un grand spécialiste de l'improvisation à l'orgue, donc il nous fera la joie d'improviser sur cet instrument après un programme très varié.
Là, vous allez vous associer aux Ambrosiniens, ensemble relativement connu tout de même, et particulièrement dans cette région-ci.
Oui, tout à fait. En fait, le concert donc du 14 avril prochain à 16h, c'est un projet transversal entre le Conservatoire de Dijon et le Conservatoire de Nancy. Ben, en fait, la classe d'orgue de David Cassan et la mienne. Et nous nous associons aux Ambrosiniens pour en fait donner l'intégrale de la messe des paroisses de François Couperin. Donc, c'est une œuvre qui a été composée en 1690 et qui est en fait une messe en alternatim, autrement dit l'ancien rite qui faisait alterner le chant et l'orgue. L'orgue n'accompagnait pas, mais le chant et l'orgue se répondaient.
Parce qu'en général, quand on donne la messe des couvents ou la messe des paroisses de Couperin, on oublie le chant, si je veux dire.
Oui, c'est ça. On se focalise plutôt sur l'œuvre d'orgue en tant que telle. On l'entend dans un contexte discographique ou de concert. Mais là, on va essayer de lui donner en fait sa dimension et sa dynamique de dialogue entre les deux extrémités de la cathédrale, hein, puisque les Ambrosiniens, le chœur grégorien seront dans le chœur à une extrémité et le grand orgue de l'autre. Donc, ce sera un dialogue permanent.
Parlez-nous de cette journée du 27 avril où ça me rappelle un peu ce festival qu'organise chaque année les traversées baroques avec musique en ville. C'est-à-dire que vous allez nous proposer une balade à travers les instruments.
Dans une dimension plus modeste, on va dire, les organistes de Dijon, tous collègues, tout confondus, de toute génération, vont proposer en fait des petits moments musicaux sur les instruments les plus représentatifs de la ville. Donc, grosso modo, imaginez, nous allons commencer à l'église Saint-Pierre, par exemple, place Wilson, et Luc Boquet, l'organiste titulaire, va nous parler de son instrument, parler un peu du lieu, et nous faire entendre un peu un quart d'heure, 20 minutes de musique. Ensuite, à pied, nous allons nous balader d'église en église, Saint-Michel, le temple protestant, Sainte-Chantal, la cathédrale en fin de journée. Alors cet événement-là, c'est bien parce que ça permet finalement de montrer à des gens qui ne sont pas spécialement mélomanes, mais des touristes de passage ou même des passionnés de patrimoine, que les églises peuvent vivre un petit peu durant cet après-midi. Et surtout aussi, c'est l'occasion de créer du lien et de faire des projets ensemble entre collègues organistes d'une même ville.
Vous qui êtes récemment arrivé à Dijon, qui êtes un homme de l'Est au départ et qui l'êtes toujours, est-ce que Dijon vous semble une ville riche du point de vue de l'orgue, justement ?
Ah oui, absolument, parce que le patrimoine de la ville de Dijon est très diversifié. Hein, on a en fait tout un panel d'instruments sur la ville qui permettent de jouer l'ensemble des répertoires. Et quand on parle de la ville, on peut aussi parler de sa périphérie, parce que, mine de rien, Gevrey, Chambertin ou Nus-Saint-Georges ne sont pas loin. Donc on a tout un patrimoine, le grand rip monumental 18e siècle de la cathédrale, l'église Saint-Michel qui est un instrument néoclassique magnifique, Saint-Pierre, une copie d'orgue italien de la fin de la Renaissance, début du baroque, l'orgue de Talant qui est un instrument baroque allemand. Vous voyez, on a tout un panel qui permet de faire entendre quasiment 600 ans d'histoire de la musique d'orgue.
On a entendu des extraits qui sont venus ponctuer notre conversation. Alors, c'est pas un CD, c'est un enregistrement que vous avez vous-même réalisé avec, on va le dire, avec des moyens de fortune.
Oui, tout à fait. C'est un enregistrement qui a été réalisé avec les moyens du bord pour la cathédrale et pour avoir un souvenir gravé de l'instrument qui fera l'objet d'enregistrements discographiques relativement diversifiés au cours de la fin 2023-2024.
Bon, au bout du compte, on inaugure quand ? Parce que finalement, on n'a pas eu la grande cérémonie officielle, peut-être même religieuse, autour de cet instrument-là. Vous précédez le mouvement ?
Alors, en fait, nous avons des désynchronisations au niveau calendaire, au niveau de l'agenda. Nous avions prévu à l'origine, en accord avec la DRAC, d'inaugurer officiellement cet orgue durant le week-end prochain, c'est-à-dire entre le 6 et le 7 avril. Mais les travaux monumentaux de la crypte ottonienne, donc de la cathédrale, ont pris un petit peu de retard du point de vue technique et administratif. Et la DRAC a décidé d'inaugurer officiellement ces deux points importants, c'est-à-dire le chantier de la crypte en même temps que le chantier du grand orgue. À l'heure actuelle, je pense que serait envisagée la période mai-juin 2024, mais je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne suis pas, on va dire, dans le secret de l'agenda, des agendas ministériels, de la DRAC. Ça dépend de paramètres beaucoup plus compliqués qui m'échappent.
Bon, bah écoutez, l'important, c'est que la musique soit là. Donc, ce festival international d'orgue, alors international, parce que présence en concert de clôture de Monica Melkova qui vient d'Espagne. On met les liens, bien sûr, sur le site de BFC Classique.